Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Bonsoir à tous les amis, 18h04, ravi de vous accueillir dans un nouveau Team du Gars. Nous allons nous régaler pendant 2 heures avec forcément des invités de qualité. Il n'y a pas que Jean-Louis Tour ou Franck Leboeuf qui sont là. Bonsoir messieurs, comment allez-vous?
Salut Dugas.
Salut Christophe.
Comment ça va les copains?
Bah ça va, on est bien entourés, on a deux stars. On a
deux stars
qui viennent d'arriver.
Voilà l'héritier qui a perdu sa couronne, Jérôme Rotten. Bonsoir mon Jérôme.
Je parlais pas de Jérôme. Je parlais de Momo.
Salut Dugas, salut à tous.
Salut mon Jérôme. Et nous recevons notre invité exceptionnel, c'est Tony Parker, le futur président de l'Olympique Lyonnais. Carrément, je mets les pieds dedans. Comment ça va, Tony?
Ça va bien.
Quel honneur de te recevoir. Enfin, tu vas faire une vraie émission de sport, parce qu'avec les pieds niqués, là, juste avant, là, c'est pas du sport, ça.
Ils m'ont dit, là, je fais Team Dugas, donc j'ai augmenté là, de level, là. Je suis passé au plus haut, là.
Avant Team Dugas, il y avait quand même le Tipeee Show sur RMC.
C'est vrai, le lundi soir, j'écoutais.
Pendant 10 ans,
voilà. Et oui, moi, je l'ai fait, cette émission, hein. Vous savez, il y a 7 ans, et oui.
Tu faisais quoi en tant que présentateur?
Ah ouais, bien sûr, avant de faire Team Dugas, j'ai fait quelques Tipeee Show.
Ah, t'as fait des choses de qualité alors.
Ouais, mais
alors,
faut dire, j'étais en panique sur le basket, c'était terrible. Mais bon, on était mis sur le foot après. Hein.
Avec moi, t'en as rien à foutre, ouais, vraiment, avec moi, ouais,
c'est pas la même chose.
Ouais, non, mais il est dans l'expérience, ça, maintenant, tu vois, c'est facile pour lui, on voit que ça.
Tony maîtrise mieux le basket.
Ouais, c'est ça, Jérôme, bien sûr.
Tony, ça te fait quoi, Tony, d'être avec un compatriote américain comme Franck?
J'ai ce qu'il disait. Bah, écoute, on se remémorait nos moments parce que j'ai eu la chance d'être invité par Tony chez lui.
C'est pas toi qui ai posé la question, Francky. Merci beaucoup.
Ouais.
Mais quel enclume, je suis là, il commence fort. On a 2 heures à se faire, je te jure que ça va être une souffrance pour toi.
Du gars, ça repart comme hier avec Francky.
C'est Tony Parker qui reçoit Franck Leboeuf, c'est génial.
Je peux rien dire contre Francky, on se connaît depuis tellement longtemps et il avait. On l'avait bien accueilli avec ma famille. Je sais qu'il avait perdu quelques paris, mangé avec le papa, mon frère. Enfin, tu connais Francky, il connaît tout le monde, il connaît toute la famille.
Ouais. 50 dollars. 50 dollars. Tony Parker, qui est blindé, m'a pris 50 dollars.
Ah bon?
Sans déconner. Il m'a fait un pari. Il est sur le floor. On est à San Antonio. Il est sur le floor. Il est assis. Sur le parquet.
Okay.
On est assis tous les deux. Il est à l'échauffement. Le mec est assis déjà, tu vois. Et il me dit, je te pose 50 dollars que assis, je le mets direct là. Il est sur le côté, hein. Je mets direct dans le panier. Je le aurai jamais. Je suis là direct. Un coup.
Tu vois, t'as encore dit des conneries.
Non, je ne croyais pas aussi fort, tu vois. Je nettoie la table.
Tony, qu'est-ce qu'il aura manqué à Franck pour réussir aux États-Unis, tu penses?
Joker.
Voilà, bienvenue dans Team Liga.
Non, mais toi, t'as connu Hollywood. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il il aura fallu à un moment. Il pouvait la carrière, l'acteur. Il fait l'acteur depuis 4 ans dans Team Liga. Comment il peut pas réussir aux États-Unis? C'est pas possible.
Aux États-Unis, c'est très politique. Très politique.
Il aurait fallu coucher, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu coucher.
Duga, tu paries 50 balles avec moi que Francky ne va pas réussir à ne pas couper la parole pendant 2 heures?
Ah, à
c'est
qui
mort, ça.
Ça n'est pas à qui.
C'est mort, on les joue pas.
Ça n'est pas à qui.
À tout le monde.
À tout le monde.
Ouais.
On fait un pari. 50, ah ouais. 50 euros.
Non, je joue pas.
Je te jure, tu vas cracher.
Allez, on y va pour Team Dugas à 19h. Le Barça manque-t-il de respect à Antoine Griezmann, entré en jeu hier dans les arrêts de jeu, alors que le Barça devait marquer dans un match très important. On en parlera tout à l'heure. À 19h30.
Ça me fait rire ce mot, le manque de respect.
Oui, je sais.
Ouais, ça veut tout rien dire. Tu sais, oui, les joueurs de foot, ils disent, quand tu leur donnes pas assez d'oseille, ils te disent le club m'a manqué de respect.
Oui. Mais là, c'est pas une question d'oseille.
Ouais, bah non, bah on va voir ce qu'il y a derrière tout ça.
Okay. À 19h30, puisque Tony, je sais pas si tu le sais, mais on est dans les derniers Team Dugas de l'histoire. Dans 10 jours, ce sera fini.
Ouais. Ah, ok, je savais pas.
Et oui, la retraite pour Dugas.
Oh, waouh.
Mais il a bien donné. Hein.
Il a bien donné, ça c'est sûr.
Voilà. Ce que tu pourrais jamais faire, la retraite pour toi, Tony, c'est impossible.
Non, je suis un hyperactif, ce serait trop difficile.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'il va faire
Dugas
pendant le reste de sa vie?
Lui aussi est hyperactif. Bah, je pense que le jardinage déjà.
Le
tu
golf.
Crois, moi, Jean-Louis, que je suis hyperactif?
Non, pas du tout.
Alors, ah
non, c'est une blague.
En fait, tu vas devenir énorme. Dans 2-3 ans, on ne reconnaît plus quand on le voit.
Je sais pas. Non, mais le jardinage, je pense, et l'écologie, ça va être ses deux passions maintenant.
Ah oui, oui, bah, avec le maire de Bordeaux.
Ouais. Tu vas habiter où, du gars? Tu vas prendre la retraite où?
Du côté de Marrakech, pour tout te dire.
Ah, waouh, ok.
Ouais, au soleil, je joue le golf.
Mais qu'est-ce que tu fais des maisons à Saint-Barth, New York, Bordeaux?
J'ai gagné 50 euros, moi.
Non, mais j'ai voulu acheter une maison à San Antonio, mais elle était trop chère. Donc, écoute.
Les prix sont hauts là-bas, attention.
Ouais, il y avait.
Non, mais sur le. T'as pas le t-shirt I Love San Antonio, tu vois, ça n'existe pas, en fait, du gars.
Ah, d'accord, ok.
Dugas ne met que des t-shirts qu'on lui file.
C'est bizarre parce que le portail, il y a eu un 13 sur le portail, donc écoute, j'ai visité, mais c'était beaucoup, beaucoup trop cher. Beaucoup trop grand.
Bon, en tout cas, c'est les derniers Team Dugas d'histoire. Donc, on refait des débats qui ont marqué cette émission pendant 4 ans. Aujourd'hui, Totti est-il une légende du foot? Ça a beaucoup fait parler il y a 3 ans lorsque Totti a pris sa retraite. On en reparlera tout à l'heure à 19h30. Mais donc, l'événement de la première heure, c'est la présence de Tony avec nous. On a plein de questions sur ton rapport au foot, sur ton implication à Lyon, sur peut-être ton futur poste de président de l'Olympique Lyonnais. On en parlera tout à l'heure. Mais on va commencer par un débat sur ces personnalités qui arrivent à réussir dans le foot sans connaître ce milieu. Ce sera peut-être ton cas un peu plus tard. Ça peut être le cas de Mourad Boudjelal s'il arrive à reprendre l'OM. On va en parler. Mohamed Bouafsi est avec nous. Bonsoir Mohamed.
Salut Dugas, salut Tony,
bonsoir,
salut Francky, salut Jérôme.
Juste avant le débat, Mohamed, l'OM travaille quand même, malgré toutes les rumeurs autour de la vente du club, et tient sa première recrue.
Ouais, c'est une recrue qui ça a été une petite surprise pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille. On l'a su assez tard hier. Il était arrivé à Marseille pour passer la visite médicale. C'est Pape Gueye, le milieu de terrain du Havre. Alors, je sais que je ne dois absolument plus dire le mot pépite du gars. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit un prospect, on dit un joueur qui est un espoir du football français. Il était courtisé par plusieurs clubs. Il s'était engagé il y a quelques semaines avec Watford avant finalement d'entamer une rupture unilatérale parce qu'il était en conflit avec ses anciens conseillers. Il a expliqué qu'on lui a présenté un projet qui n'était pas le bon. Et il y a quelques semaines, il a annoncé cette information. Donc, il y a beaucoup de monde qui s'est rapproché de son entourage, notamment plusieurs bons clubs européens. Et il y a une dizaine de jours, il a reçu un appel d'André Villas-Boas, qui a pris son téléphone, qui l'a appelé, qui lui a dit qu'il le voulait à l'Olympique de Marseille. Et ça s'est fait en une dizaine de jours. Et il est arrivé hier, il a passé la visite médicale et il s'est engagé pour 4 ans aujourd'hui.
Et il y avait une histoire de pré-contrat avec Watford, non ?
Oui.
Quel prix, Mohamed, excuse-moi?
Il arrive libre. Il s'était engagé avec
l'affaire, alors.
Et il y a un mois, il a fait cette rupture unilatérale de contrat. Et
il ne va pas y avoir un litige et l'OM ne va pas devoir payer Watford.
Alors, on a contacté RMC Sport, un juriste du gars qui est proche de la FIFA et qui s'occupe souvent de ces dossiers de conciliation entre les joueurs et les clubs qui se sentent parfois un peu lésés et les clubs qui reprennent les joueurs. On a vu cette situation notamment au Sporting Portugal avec des joueurs qui étaient partis, Leao, Gelson Martins, etc. Il y a quand même très peu de chances, voire quasiment aucune chance que l'OM ne soit impacté par cette situation, puisque Watford peut entamer des démarches auprès de la FIFA et c'est surtout le joueur qui risque des choses, sanctions sportives ou financières. Mais là, Watford a tout intérêt à entamer des démarches avec l'Olympique de Marseille pour trouver un accord à l'amiable. On sait que sa valorisation était autour de 5 millions. On peut se dire que si vraiment Watford montre les muscles, ça peut se finir à peut-être 1 800 000 euros, ces montants-là. Mais vraiment, c'est une belle opération. Il arrive
Libre.
Bah, c'est chouette. C'est un très bon deal réalisé par l'Olympique.
Il a quel âge?
Bravo Jacques Henry.
24 ans?
Non, 21 ans.
21 ans. 21 ans. Ah, c'est bien.
Bah, oui, super, super.
Un gars à Paris, un gars à Marseille. Ça peut être intéressant, ça fait une belle réalité. Ouais. À voir, tu vas rigoler. Oui,
très intéressant, ça, mon Francky.
Merci, merci.
Non, ça
tu es là, Jérôme ? Tu en penses quoi ?
Bravo, Franck.
Merci.
Mohamed, reste avec nous parce qu'on va aborder le dossier qui passionne Marseille, donc une éventuelle vente du club avec donc ce groupe d'investisseurs issus du Moyen-Orient mené par le franco-tunisien Mohamed Ajroudi qui a présenté son projet d'ailleurs dans les médias, on va pouvoir y revenir. Le patron opérationnel dans ce projet, ce serait Mourad Boudjelal qui a connu de belles réussites dans le rugby. Alors on profite de la présence de Tony aussi avec nous pour se poser la question, comment réussir dans le foot sans connaître ce milieu? Appelez-nous au 32-16 pour en débattre. Vous qui avez joué du gars, Francky, Jérôme, vous en avez vu des présidents arriver qui connaissaient pas forcément le foot. Dans ces cas-là, comment on fait, du gars?
Oh mon poulet, cette question, il y a juste 2 heures d'émission. Je sais pas, je pense que déjà le management est quelque chose de très 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 difficile et compliqué. Que ce soit dans n'importe quel sport ou n'importe quelle entreprise, c'est difficile de diriger des gens. Le football et le sport de haut niveau en particulier est une entreprise à part puisque les salariés sont souvent plus payés que le patron lui-même. Donc c'est compliqué. Après je pense qu'il faut être extrêmement intelligent, avoir une vraie sensibilité humaine au rapport humain, parce que c'est important. On demande à des sportifs de se dépasser, de se surpasser pour aller gagner des matchs, pour aller gagner des compétitions. Le rôle mental est très 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 important dans le sport de haut niveau. Voilà, il y a des salariés à gérer. Moi, je crois que le rapport humain est quelque chose qui est qui est déterminant parce que tu t'engages dans t'as des contrats à plus ou moins courte durée et tu t'engages sur des objectifs et je pense que il faut être extrêmement intelligent, il faut respecter des codes, il y a des codes à respecter, le football est quand même très compliqué, il y a des la façon dont fonctionne notamment le rôle des agents est quelque chose de très compliqué, très nébuleux.
Et très propre au foot.
Parce que même si
t'as une sensibilité qui vient d'un autre sport, oui. Ça c'est quand même un truc appréhender.
Tu as raison, moi Jean-Louis. Et puis, il fonctionne de manière différente dans les pays. C'est-à-dire, le rôle des agents, par exemple, en France, est totalement différent des rôles des autres agents à l'étranger, qui ont beaucoup plus de liberté. C'est compliqué. Il faut garder une honnêteté, forcément, aussi, parce que le football est extrêmement surveillé également. Donc voilà. Mais il faut pas penser qu'il y a que les gens du foot qui réussissent dans le football. Je trouve ça totalement ridicule de penser ça. Il faut avoir une faculté d'adaptation.
C'est des gens qui travaillent bien en général, quoi.
Exactement. Ouais. Quelqu'un qui travaille bien, qui est intelligent, qui travaille beaucoup, qui a un rapport humain fort, il réussira dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Moi, j'ai aucun doute là-dessus.
Jérôme, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Ouais, bah, je suis sur la même lignée que Duga sur le fait que les présidents ils sont pas obligés d'être des anciens sportifs de haut niveau, surtout dans le foot. Ça peut être des chefs d'entreprise, on en a vu. Moi, j'en ai connu aussi des présidents qui connaissaient pas grand chose au football quand ils sont arrivés et qui ont fait des très bonnes choses parce que déjà le fait de s'approprier un petit peu le club, de faire avancer le club, d'avoir des réelles ambitions, ça tu le transmets aussi à tes joueurs, à ton staff. Le tout, c'est quand tu viens pas du milieu du foot, c'est aussi de bien s'encadrer. Les personnes les plus importantes après le président, bien sûr, c'est un directeur sportif, c'est un entraîneur, c'est d'avoir tout le monde un petit peu sur la même ligne, avec la même ambition, le même projet. On le voit trop ces derniers temps que les projets diffèrent à l'intérieur des clubs aussi et des personnes qui sont en place. Donc c'est ça, c'est d'être bien entouré pour après ressortir le maximum. Je pense qu'il faut pas non plus voir la fonction de président comme le président qui va décider de tout sportivement, de ce qui se passe sur le terrain.
Savoir faire confiance aussi.
Ben oui, exactement.
Aussi, c'est un président aussi, c'est de choisir les bonnes personnes et les laisser travailler. C'est aussi ça, un bon président. Okay.
De toute façon, je pense que la plupart des gens qu'on a vus à la présidence de tous les clubs dans toute l'histoire du football français sont en principe des gens qui comprennent rien au football. Ils sont été des chefs d'entreprise. Mais dernièrement, quel est l'ancien joueur qui est devenu président d'un club ? Il y a Marc Keller. Oui. Mais après, je cherche sur des grands clubs qui sont devenus.
En Allemagne, au Bayern de Munich.
Ouais, voilà.
Mais après, tu peux connaître le foot et son fonctionnement sans avoir été un grand joueur.
Ouais, même Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, il y a un grand chef d'entreprise qui, au départ, quand il partait dans le vide. Bernard Tapie, je suis désolé, c'est un grand président. Je suppose que Monsieur Bess, c'était pareil. Si tu veux,
Laurent Nicolin, par exemple, il a baigné dans le foot pendant des années avec son père et ça lui a permis de faire une transition facile.
Ouais. Mais je dirais que la majorité des présidents ont été surtout des chefs d'entreprise et surtout pas des sportifs ou des anciens footballeurs. Donc j'ai aucun souci par rapport à ça. Et encore une fois, par rapport qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Je suis d'accord avec la dernière phrase de Christophe, c'est surtout savoir déléguer et prendre les gens de confiance, essayer au maximum d'avoir des gens de confiance, même d'être auprès des joueurs pour sentir comment ça se passe, comment ça se passe.
Alors après, peut-être que Tony, il y a un truc avec toi qui est différent, c'est d'avoir la sensibilité quand même du sportif de haut niveau. Ça, tu sens quand même que tu fais la différence grâce à ça quand tu es chef d'entreprise.
Déjà, pour reprendre un peu tout ce qui a été dit, pour moi, le plus important, c'est ta passion en fait et ta faculté à fédérer les gens et les emmener, on va dire, dans un objectif ou dans une ambition. Parce que quand t'es dans le sport, c'est une aventure humaine, avant tout. Ce qu'il faut pas compter ses heures. Il n'y a pas de secret si tu veux réussir dans le sport. Après, c'est vrai que quand moi je vais parler par rapport à tout le crédit que j'ai eu par rapport à ma carrière et ma réputation en fait de bosser dur, je peux parler, on va dire, à n'importe quel sportif. Et en plus, le foot, si on connaît bien les joueurs, ils adorent tous le basket. Ouais. Et nous, le basket, on adore tous le football. Donc déjà, il y a toujours eu ce lien en fait entre les footeux et les basketteurs. Et après, pour moi, c'est juste, faut juste travailler, quoi. C'est aussi simple que ça. Il faut que tu montres à tous ceux avec qui tu vas bosser quand tu arrives dans l'équipe, de montrer que tu sais ce que tu fais. Donc tu te prépares.
Moi, je suis quelqu'un qui se prépare énormément. Oui. Il y a des gens, Tony, qui travailleront toute leur vie et qui n'auront pas ce charisme, ce leadership pour amener, comme tu
mais
dis.
Mais ça, le gars, ça c'est sûr. Il y en a, ils l'ont et ils l'ont pas. Ça c'est sûr. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas travailler. Avoir du charisme, comment tu vas parler avec les gens. L'humain, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très, très important parce que c'est très, très dur de gérer les égos de tout le monde, les égos des athlètes. Mais après, il n'y a pas que le sportif aussi. Il y a tout le reste, le marketing, les fans. Enfin, il y a 50 000 trucs à gérer dans un club que j'ai déjà fait depuis longtemps avec le basket, et maintenant avec le foot, on va dire c'est x20, x50, surtout en France, parce que le foot c'est le sport numéro un. Mais moi je suis baigné dedans depuis que je suis tout petit, à travers mes amitiés avec différents footballeurs, et j'ai la chance d'avoir quelqu'un comme Olas qui est prêt à me prendre sous son aile et de montrer, on va dire, tous les aspects
de
ce club-là, parce que tu vois, ce club-là il est coté en bourse, enfin il y a plein de choses. Gérer l'OL, c'est pas que le club de foot, c'est pas que le sportif, et du gars, il a dit quelque chose qui est très très intéressant, c'est de savoir déléguer aussi et de savoir bien s'entourer. Pourquoi moi je fais autant de choses? C'est parce que je suis très très bien entouré, et ça, des fois les gens ils ont du mal à déléguer, et c'est pour ça que des fois il y a des boss qui prennent des mauvaises décisions parce qu'ils veulent tout contrôler. Et c'est ça le problème. Moi je veux pas tout contrôler, moi je veux juste avoir une vision, parce que l'OL Group c'est pas que le foot, peut-être demain c'est le basket, le tennis, le e-sport, et c'est d'avoir une vision globale, de porter le projet. Mais après, dans le foot, bien sûr, si demain j'y suis à 100%, la première chose que je ferais, c'est de me bien m'entourer et de prendre des têtes pensantes football.
Mais justement, est-ce que tu n'as pas été surpris de la démarche du président Olas, qui, on le sait, d'ailleurs ça a plutôt bien fonctionné, c'est un grand président, a eu du mal à déléguer, a eu du mal à laisser de la place aux autres, de venir te voir comme ça. Tu penses qu'il déléguait pas assez, justement parce qu'il n'avait pas trouvé la personne idoine?
Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a inspiré à venir me voir et me proposer, on va dire, ce poste-là. Mais c'est vrai que moi, depuis que je suis à l'ASVEL, moi j'ai souvent délégué, parce que déjà j'étais aux États-Unis la plupart du temps, même si je suis sur FaceTime tous les jours et je parle à tous mes employés tous les jours, j'étais bien obligé de déléguer et de faire confiance.
Comment tu as réagi quand le président Olas t'a proposé de t'accompagner? Ça a dû être une surprise.
J'étais surpris, mais en même temps, ça m'a fait chaud au cœur qu'il voit ça en moi, parce qu'il me voit bosser tous les jours depuis qu'il est plus impliqué dans l'ASVEL, parce qu'ils ont pris 35% de mon club. Il voit comment je suis en fait au quotidien. Et donc, pour moi, maintenant, je le prends très au sérieux, parce que je sais que pour lui, quand tu as eu un club plus de 30 ans, il veut pas le laisser à n'importe
qui. C'est son bébé.
On a l'impression qu'il arrive à déléguer dans toutes les autres sphères qui ne sont pas l'OL masculin, équipe première, où là, c'est quand même son truc.
Ouais, bien sûr, mais je pense que jusqu'au bout, tu peux toujours progresser. Et là, la façon, en tout cas, qui communique avec moi et comment il montre le club, là, il est prêt à déléguer.
C'est pas facile. Moi, j'ai eu mon émission pendant 4 ans, j'ai pas voulu la donner à Jérôme ou à Franck.
Toi, t'as bien délégué sur le programme et sur le reste.
Mais c'est parce qu'il faut
juste confiance en vous.
Sur le travail aussi.
Il faut aussi signaler qu'il a été déçu à plusieurs reprises quand il a essayé de déléguer. A essayé de déléguer avec Claude Puel, il a été déçu. Il a un petit peu délégué avec Dugny au début sur le sportif.
Oui, mais est-ce qu'il a vraiment délégué à ce moment-là ou est-ce qu'il n'était pas quand même
franchement délégué?
Faut pas oublier un truc, c'est que pourquoi il a réussi autant Jean-Michel Aulas dans le football français, c'est que on s'en rend pas compte, mais il délègue depuis plusieurs années déjà beaucoup d'aspects, mais il ne délègue pas la communication. Et sinon, on peut parler, par exemple, Tony doit le connaître, d'un homme, alors il est pas connu par le grand public, qui s'appelle Vincent Panceau, qui est le directeur juridique de l'Olympique Lyonnais, qui s'occupe de tout le quotidien et qui est l'un des hommes les plus compétents et talentueux en France.
Oui. Donc il a délégué
avec des gens compétents, et parfois
tu m'as pris les mots, hein, parce qu'il délègue.
Il délègue, mais on le voit pas parce que le seul élément qu'il veut pas déléguer, c'est la com, et d'accord, on le voit trop parfois sur ça.
Juste une remarque par rapport à la position de Tony, ce qui est intéressant, parce que moi je le connais un peu avec Marc Keller, qui est le président du Racing Club Strasbourg. Les sportifs de haut niveau, on va avoir quelque chose de plus, c'est que lui, sans se mêler du terrain, il va le ressentir, le terrain, ce qui se passe avec les joueurs, l'ambiance du vestiaire, la souffrance d'un joueur, ou tu vois, le trop plein de confiance, tout ça, il va le sentir, il va pouvoir en discuter avec. Et ça, c'est vachement important, parce que on se dit souvent, les présidents, non, vous occupez pas du vestiaire. Mais quand t'as l'expérience de quelqu'un qui a fait un sport collectif et un sport de haut niveau, il va sentir des choses qui vont rapporter.
Oui, mais du coup, quel est le rapport avec l'entraîneur? Est-ce qu'il va pas changer? Parce que Évidemment, toi, tu vas avoir envie peut-être à un moment d'entrer dans le vestiaire, de communiquer davantage avec ton entraîneur qu'un président
normal.
Et
mais
pourtant,
non,
c'est peut-être pas ce qu'il faudrait.
En fait, moi, par rapport à ce que Francky dit, il y a des similitudes. Parce que je viens d'un sport co, donc il y a des similitudes. Mais après, je vais pas prendre la place du coach. Même au jour d'aujourd'hui, alors que j'ai été champion NBA, je ne vais jamais intervenir au niveau du coach, les systèmes qu'il veut mettre en place. Ça, je viens pas.
Mais
moi, je viens plus avec un joueur si, comme il vient de dire Francky, il est en manque de confiance. Je le sens qu'il est pas bien, qu'il joue pas son jeu. Moi, je vais plus parler sur tout ce qui est aspect mental. Parce que pour moi, c'est le mental le plus important. C'est ce qui fait la différence. Le coach, il va faire ce qu'il peut. Mais après, moi, je pense que le rôle du président, s'il faut remettre un coup, et surtout quand tu es légitime par rapport à moi, par rapport au basket, bien sûr que moi, je vais l'aider. Mais par contre, j'irai jamais lui dire, oh, t'aurais dû faire ce changement-là ou ce changement-là. Ça, moi, je laisse toujours la place au coach.
J'ai une petite question.
Après, quand même, je suis d'accord avec vous, mais tous les anciens sportifs sont pas capables de ça. T'as l'impression, tu parlais tout à l'heure, on peut aussi parler de Marc Keller, qui est un garçon aussi brillantissime. T'as l'impression que même Tony, ils ouvriraient une friterie, ça marcherait. Au bout d'un moment, il faut avoir aussi cette sensibilité de parler aux joueurs, parce que tu sais, comme on le dit, il y a beaucoup d'anciens grands joueurs qui ont essayé d'épouser la carrière d'entraîneur, et au bout de trois mois, leur carrière, elle sert plus à rien du tout, quoi. Si tu leur dis pas des trucs intéressants, des trucs intelligents, des trucs qui va les concerner.
Ça, je suis d'accord avec toi, du gars.
Ça va au-delà de ça. Il suffit pas d'avoir été ancien sportif de haut niveau pour trouver les mots, pour avoir cette sensibilité qui est.
Thierry Henry a eu du mal, par exemple, à Monaco.
Peut-être un petit peu. Effectivement.
En même temps, il a pas eu beaucoup de temps.
Ouais, c'est vrai aussi. Moi, j'ai une petite question.
Tony, il n'a pas eu beaucoup de temps, mais ça fonctionne comme ça. Tu n'as pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que la première impression ou les premiers mois sont décisifs dans ce genre de choses.
Surtout sport de haut niveau.
Puisqu'on parle de. Alors, j'ai pas suivi, mais si tu prends la présidence de l'Olympique, qu'est-ce qui se passe de la présidence de l'ASVEL?
Il faudra trouver quelqu'un d'autre.
Tu arrêteras automatiquement. Tu ne feras pas les deux.
Il y a un calendrier, Tony, dans ce passage.
Alors on abordera ça juste après, parce qu'on va le cuisiner, t'inquiète pas. Juste Jérôme, tu voulais ajouter un mot sur le débat, là?
Non, j'écoutais. Non, il n'y avait pas de souci. On parlait de Thierry Henry. Toi, il disait qu'il n'avait pas eu le temps à Monaco. Oui, en effet, on lui a pas laissé beaucoup de temps. Mais malheureusement, dans le foot, et ce que Dugas disait, dans le foot aujourd'hui, on n'a pas de temps, quoi. Il faut avoir des résultats, malheureusement, tout de suite. Et contrairement à beaucoup d'autres sports, dans le foot, c'est indéniable. Si l'entraîneur ou si l'équipe dirigeante, elle a pas de résultats, en général. C'est mal parti, c'est tout.
Exactement. On revient dans une seconde avec donc Tony Parker dans Team Dugas, le futur président de l'OL. On lui pose toutes les questions.
Ça va être chaud, Tony, prépare-toi.
Il faudra notamment qu'il nous raconte le coup de fil qu'il a passé au jeune Kaloulou, qui finalement est parti à Milan.
Ouais, ça a bien marché, bravo, oui. Tony.
Allez, à tout de suite et on remercie Mohamed Bouafsi. À tout de suite.
RMC, 18h20.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h30, Team Dugas continue avec Jean-Louis Tour, avec Jérôme Rotten, avec Franck Leboeuf et notre invité exceptionnel, Tony Parker.
Et en plus, Adrien Aigouin est là pour son journal moyen qui arrive à 18h45. Salut Adrien.
Bonjour messieurs.
Bonsoir Adrien.
Monsieur Parker, salut, hommage.
Adrien.
Enfin quelqu'un de sérieux autour de la table.
Quelqu'un de bien, tu peux le dire.
Dans le journal moyen, on parle pas beaucoup de lui en ce moment, il se fait très discret. Mourad Boudjelal sera de retour dans le journal moyen. Il a une chronique sur un site de rugby, il parle de foot. C'est toujours très étonnant, Mourad.
Très bien, tout à l'heure Adrien, merci. Dugas, ça y est, je te le laisse, les yeux dans les yeux. Donc tu es avec Tony Parker, le futur président de l'OL.
Le président arrive, dites-leur de retourner s'asseoir.
Welcome, are you okay?
Je pense que le fait de penser à l'impossible et d'avoir de grands rêves résume bien en fait ma carrière, ma vie.
Bienvenue à bord, monsieur le président. Are you happy to be here?
Moi, je connais l'importance de ce rôle.
Monsieur le président.
J'ai encore beaucoup d'ambition.
C'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
D'ici, on peut diriger tout le pays.
On y pense. Pour faire de la ville de Lyon une place forte du sport français.
Comme vous voudrez, c'est vous le président.
Bien sûr, il faut être un peu fou.
Je voulais introduire cette conférence par une réflexion que faisait DJ Snack.
Quand tu parles avec ton cœur et quand t'es passionné, je pense que là, tu peux pas tricher.
ils ont sorti le DJ Snack.
Le DJ Snack, t'es obligé. T'es obligé. Vas-y, Dugas.
Bon, Tony, dis-nous, est-ce qu'il y a un planning pour reprendre la date exactement? Quand est-ce que tu dois prendre la présidence de l'Olympique Lyonnais?
Les premières discussions avec Jean-Michel, c'était genre dans 3-4 ans. Mais après, il n'y a pas une date précise.
D'accord.
Oui. C'est-à-dire que là, il te prend sous son aile, mais t'apprends quoi au quotidien? Ça se passe comment, votre relation? Est-ce que dans les discussions pour le recrutement, par exemple, est-ce qu'il te dit, il te parle de tout dans le club, comment ça fonctionne? Enfin,
De tout. On parle de tout, en fait. Donc, il n'y a même pas un truc précis, c'est on parle de tout en général.
D'accord. Et si, s'il y avait un changement d'entraîneur, un joueur à faire venir, il te demanderait ton avis?
Ouais.
D'accord. Parce que tu fais partie du conseil d'administration, en plus, c'est ça, de l'OL. Donc forcément, ouais, t'es amené à réagir sur tous les sujets. Et donc, déjà à peser, tu sens déjà que ton avis est écouté et a une importance.
J'ai l'impression que, voilà, bien sûr qu'il me respecte et que ça va dans les deux sens et qu'on a vraiment créé une relation privilégiée et qui me fait confiance, tout simplement.
T'as pas réussi à lui faire comprendre pendant la crise, là, qu'à un moment, il fallait passer à autre chose et...
Je suis pas rentré dans ça, mais après, si tu connais le personnage et comment il a réussi ces 30 dernières années, tu sais très bien qu'il va pas lâcher l'affaire.
Ah bah nous, ce qu'on disait, c'est si sur le terrain, ces joueurs étaient aussi acharnés que lui en dehors, il y aurait moins de problèmes sportifs. Ah bah
ça, c'est sûr.
Et est-ce qu'il y aura une autonomie à plus ou moins courte échéance de ta part qu'il lâchera complètement l'affaire?
C'est une très bonne question. Après, on verra comment les conditions qu'il va mettre dans 3-4 ans. Mais pour moi, j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à apprendre que plus il reste, mieux c'est pour moi.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce coup de fil donc au jeune Pierre Kaloulou, qui est un jeune formé à Lyon? On connaît les Kaloulou, hein, il y en a eu 4 qui sont passés par le centre de formation. Oui. Les deux premiers sont partis. Le père notamment de la famille Kaloulou s'est dit, bah, de toute façon, à Lyon, ça marchera jamais pour mes gamins. Et donc, le dernier s'est engagé avec le Milan, Pierre Kaloulou, donc le défenseur latéral, alors que l'OL voulait lui proposer un premier contrat et lui faire confiance. Mais ça ne passait pas avec la famille. Du coup, tu as été amené à l'appeler pour essayer de lui faire changer d'avis.
C'est ça. Jean-Michel, il m'a appelé, savoir si je pouvais appeler Pierre. Et donc, on a eu une super conversation. On a discuté pendant 45 minutes. Et c'est vrai que c'était un contexte pas facile, pas un choix facile pour lui par rapport à ce qui s'est passé avec les deux frères.
C'est ça. Okay.
Et donc, pour moi qui vient d'arriver, c'est pas facile aussi de donner des promesses ou quoi que ce soit. Donc, à la fin de la journée, moi, je suis vraiment content pour lui. Il a pris la décision qu'il pense qu'est le mieux pour lui. Et donc, après, il m'a envoyé un texto super gentil après, et on va rester en contact parce que tu sais jamais ce qui peut se passer à l'avenir. Un jour il peut revenir. C'est une famille quand même qui a eu pas mal de joueurs dans le club, donc je pense que il faut rester positif et tu sais jamais ce qui peut se passer.
T'as envie de faire quoi de l'OL, Tony? Jusqu'à quel niveau peut aller l'OL? Est-ce que l'OL aura les moyens, plus de moyens? Comment les choses peuvent évoluer favorablement pour ce club?
Bah déjà, ils ont gagné beaucoup de titres dans les années 2000. Là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a eu un titre de champion de France. Et après, bien sûr, Champions League, ça reste toujours un objectif très très important pour l'OL. Donc, je pense que c'est d'essayer de ramener le titre de champion de France et de continuer à faire grandir le club. Je pense qu'avec le nouveau stade, une fois que tous les remboursements ont été faits, on pourra avoir plus de moyens à mettre dans le sportif. Donc, je pense qu'il faut continuer à être patient. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour aller dans ce sens-là. Et je pense que voilà, dans les 3-4 ans, on pourra essayer de construire une équipe encore plus compétitive.
Jean-Michel Aulas, tu n'as pas demandé d'appeler Memphis Depay de la même façon qu'avec Kaloulou, qui est à un an de la fin de son contrat?
Non.
Tu rachèteras un moment, là. Oui, vas-y, Duga.
Tu rachèterais les parts de Jean-Michel Aulas ou tu serais un président délégué?
Pour l'instant, je pense que tout est ouvert. Tout est ouvert. Moi, je serais intéressé. Je pense qu'en tout cas, pour être légitime, c'est important d'avoir des parts. En tout cas, moi, je me vois pas accepter ce job et que je suis pas actionnaire aussi. Je pense qu'à un moment donné,
oui, tu veux prendre les risques avec.
Bien sûr, quand tu crois dans un projet, pour moi, il faut investir. Et moi, c'est clair que investir dans ce club-là, avec plaisir.
Tu aurais justement des investisseurs derrière qui pourraient faire passer le budget du club?
Bien sûr. Moi, j'ai déjà des idées en tête, surtout pour le développement qu'on veut faire avec Jean-Michel à l'international. Ça, c'est clair qu'on a pas mal de fonds, pas mal de groupes qu'on a en tête. Et on a déjà commencé avec le premier pas, avec le rachat du club féminin à Seattle. Et on a encore pas mal de choses qu'on veut mettre en place.
Des fonds d'investissement dans le foot, ça marche pas vraiment. C'est des fonds qui sont là pour faire 15% de rentabilité.
Ça dépend, voilà, ça dépend ce que tu leur proposes, mais c'est surtout ce qu'on va proposer à l'international. Donc, je pense que là, on pourra intéresser des fonds.
Tony, tu le disais tout à l'heure, les joueurs de foot adorent la NBA. Enfin, ils sont très nombreux dans ce cas. On en a en tête des internationaux français comme Griezmann, comme Mbappé. Est-ce que il peut pas y avoir une certaine dérive à ça, dans le sens où on a l'impression qu'en se basant sur le modèle NBA, certains joueurs de foot pensent beaucoup plus à leurs stats que ça pouvait être le cas avant, et une petite dérive vers l'individualisme. Alors peut-être qu'en basket, les choses sont dans la culture, sont très différentes et sont installées auprès de tout le monde de penser qu'à ses stats ou à beaucoup à ses stats. Est-ce que ça peut pas être une dérive dans le foot, ce modèle-là?
Je pense qu'on a les mêmes problèmes dans le basket.
Ah ouais.
Je pense que tous les sports co, la clé pour avoir une bonne équipe, c'est de créer, on va dire, un collectif où les joueurs pensent que qu'au résultat final, qui est de gagner des trophées. Et c'est à toi de bien faire tes devoirs et de bien recruter et la mentalité des joueurs pour voir s'ils pensent plus à l'équipe que à leur, on va dire.
Et ça, tu trouves que ça a changé par rapport à la génération précédente?
Non, je pense que ça, c'est toutes les générations. Pense que toutes les générations, tu gères ça. Et les grandes équipes, c'est ceux qui arrivent à mettre leurs égos de côté.
Peut-être une première fois, je suis pas d'accord avec lui, mais je pense que le Ballon d'Or, par exemple, qui est vraiment devenu quelque chose de très important dans notre monde du football, n'était pas une priorité il y a encore, une vingtaine d'années. Mm-hmm. Ça le devient. On a l'impression qu'il y a même des joueurs qui sont complètement obnubilés par ça. Tony Parker.
Que c'est parce que maintenant il l'annonce. Parce qu'il l'annonce maintenant. Voilà, il le dit carrément publiquement. Mm. Mais je pense pas que quand tu jouais il y a 20 ans, que les joueurs ils pensent pas à eux d'abord. Surtout quand t'es jeune, tu sais, t'arrives, tu veux prouver, tu veux gagner ta place, et après quand tu vieillis, tu penses plus à l'équipe. Mais c'est j'ai envie de dire, c'est humain en fait, Francky. Tu sais, quand t'arrives, moi quand j'avais 19 ans, moi je voulais prouver que je pouvais jouer, et après je pensais plus aux résultats d'équipe. Mais Jérôme, c'est juste que maintenant ils annoncent tout de suite, je veux gagner le Ballon d'Or. Avant ils disaient pas ça il y a 20 ans.
Jérôme, qu'est-ce que t'en penses de ça, de ce sujet?
Sur les Ballons d'Or,
les... Non, sur les stats individuels, ouais.
Ouais, bon, écoute, ça a toujours existé. On y a tous pensé, surtout les postes, je te dirais les postes offensifs, ça a toujours été là. Le buteur avait envie de marquer beaucoup de buts, le passeur a envie de faire beaucoup de passes décisives pour se faire remarquer,
C'était un précurseur un peu.
Mais non, mais Dugas, franchement, vous me faites rire, vous, la génération 98, parce qu'à l'arrivée, on a l'impression que vous, c'était avant tout que le collectif et que on pensait pas à sa petite carrière et à ses stats. Bien sûr que vous y pensiez aussi, comme moi, j'y ai pensé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un juste milieu
à
avoir.
Ça doit pas être au détriment de l'équipe, quoi.
Ben non, ça doit pas. Tu dois pas sentir. Alors peut-être, il y a dans le football, il y a une exception. C'est peut-être le buteur. Le numéro 9, lui, il a besoin, il se nourrit des buts plus que tous les autres joueurs. Et ça, ça a toujours existé aussi. Et t'as plus de passes droits avec ce joueur-là. Mais si tu commences à en avoir 4 ou 5 dans l'équipe qui pensent avant tout à leur stat individuel, là, tu peux pas avancer collectivement, c'est pas possible. Le foot, c'est un sport qui se déroule à 11, quoi. 11 joueurs, on n'est pas 3 joueurs sur le terrain, on est 11. Donc si tu commences à en avoir 3 ou 4 qui pensent à leur petite gueule, tu peux pas avancer.
Bien parlé, Jérôme. Bravo. Tony, dis-moi juste, ça sera avec Juninho, l'aventure Tony Parker à Lyon se fera aussi avec Juninho?
Pourquoi pas, Moi, Juninho, il vient d'arriver, donc moi je trouve qu'il fait du bon boulot. C'est pas facile de faire, tu sais, la transition. Je pense qu'il est toujours en train d'apprendre aussi le métier, et pour l'instant, moi je m'entends super bien avec lui.
Très bien, Tony, merci beaucoup d'être venu dans Team Duga.
Merci Tony,
merci Francky.
Salut Tony, au plaisir.
On te retrouve vendredi dans le Super Moscato Show où tu interviens régulièrement, et si vous êtes fan de basket, de l'ASVEL, la série, ça revient vendredi à 21h sur RMC Sport 1 avec l'épisode 8, à ne pas rater également. Merci beaucoup Tony, on revient dans une seconde avec le journal moyen d'Adrien Aiguin. Duga, tu en as déjà parlé, mais toi tu le verrais parfaitement dans ce costume de successeur de Jean-Michel Aulas.
Il dégage quelque chose, Tony. Ouais. Il a quelque chose quand il te parle. Je te dis, tout le monde n'a pas ce
tout
charisme.
Paraît simple en fait.
Oui, il parle simplement, il parle clairement. On sent que tu as envie d'aller avec lui. Je ne sais pas si ça marchera ou pas. Après, il y a tellement de paramètres qui font que. Mais tu as envie de le suivre.
Il y a un crédit extraordinaire.
Ça, le charisme, c'est important quand même. Ouais. On parlait Jacques-Henri Hérault qui est sympathique et tout. Mais tu sens que, surtout dans un club comme l'Olympique de Marseille, on sent qu'il a du mal à amener les gens derrière lui. Alors après, il y a un discours, un langage qui n'est pas toujours adéquat aussi. Mais c'est important d'avoir des hommes forts. Tu vois, au carré, je vois à Bordeaux avec Longue Épée. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, il faut mettre des mecs qui ont ont de la stature, quoi, qui ont quelque chose, c'est important.
Bravo. Bah, bien dit.
Quelle stature et quel charisme.
On va rien dire parce qu'il reste deux secondes. Hein.
RMC, 18h20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h45, Tim Dugas continue avec Franck Leboeuf, avec Jérôme Rotten, avec Jean-Louis Tour bien évidemment. À partir de 19h, les amis, nous allons parler d'Antoine Griezmann, toujours autant en difficulté.
Le Barça lui manque-t-il de respect, Dugas? Ce sera tout à l'heure, 32-16 pour débattre. Le journal moyen, c'est tout de suite.
À la une du journal moyen de Tim Dugas aujourd'hui sur RMC, un club de Ligue 1 dont le groupe vit bien. Et oui, c'est important, le groupe vit bien. Quoi. Ah oui. Ça c'est bon, t'es champion derrière. Ouais. J'ai pensé à toi, Dugas, hier en regardant Barça-Atlético de Madrid. Je vais t'expliquer pourquoi.
Plus que ça, tu passes très souvent à moi.
Ouais, mais là,
au-delà de ce match.
Normalement, en regardant le Barça Atlético, j'ai pas forcément de raison de penser à
non,
toi.
Non,
mais voilà, je pensais à toi. Et puis Mourad Boudjelal, lui, on pense pas à lui, mais il pense pour nous, et il est partout, et il parle pour nous, et il est en pleine forme. Le président héros, président de l'OM, toujours l'OM, annonce une prolongation. Bonne nouvelle, président.
Présentation officielle de notre première recrue estivale. Alvaro Gomez.
Oui, bah, très bon joueur ce Alvaro Gomez. On attend ses performances avec impatience.
C'est pour ça qu'il a prolongé.
Il est aussi fort qu'Adil Ramzi. C'est le 346e journal moyen de l'histoire de Team Liga.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Duga.
Adrien Aigouin.
Tony Parker vous a parlé de Thierry Henry, son copain, c'est ça? De son expérience à Monaco, du manque de temps. Mais le mieux pour parler de tout ça, du temps et du manque de temps, c'est Thierry Henry. Ben oui.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Voilà, c'est pour ça qu'on
a dû le mettre à Tony.
Il n'y avait pas un Belge qui parlait comme ça.
C'est Jean, oui. Et Van Damme.
Bravo.
Bah, bravo, Titi. C'est pour ça qu'à Monaco, c'était un peu compliqué. On débute avec une ville, Dugas. Avec ta ville, Dugas. Oui, ta ville.
Buenas tardes.
J'ai la pêche.
Muy bien, muy bien.
Et avec vous.
Muchas,
c'est la super pêche.
Muchas gracias.
Voilà, c'est les trois légendes de Bordeaux dans un même jingle finalement. Alain Juppé, Pascal Obispo et Christophe Dugarry. J'ai pas la pêche, j'ai la super pêche. Donc hier, vous receviez dans Team Dugas Pierre Urmic, le futur.
Ah mais c'est Bordeaux sa ville. Je croyais que c'était Barcelone.
Là. Bah, moi aussi, j'étais parti sur. Pourquoi il parle en espagnol?
Pourquoi il parle espagnol alors?
Juppé, bah parce que on n'est pas loin quand même, tu vois.
À Bordeaux.
Pierre Urmic dans Team Dugas hier, le futur maire de Bordeaux, il vient d'être élu maire, mais toi, Dugas, tu le vois déjà beaucoup plus haut. Tu lui prédis une énorme carrière. Tu le félicites pour son élection, et là, c'est le drame.
J'attendais depuis un moment ce basculement de la ville de Bordeaux, et voilà, je suis heureux que ça se soit passé dimanche.
Bon, super. Dites-moi, président.
Oui, bah oui, président, carrément. Objectif 2022, Dugas. Et en plus, Dugas, mais tu y crois vraiment, tu insistes.
Une dernière question, président. Avez-vous des présidents, pardon, monsieur le maire?
Eh oui, président. T'as trop de présidents depuis 4 ans dans le Team Dugas, tu n'en peux plus, des présidents.
Ah, mais on a changé 3 fois de patron en 4 ans déjà, RMC. Donc, rien que ça, j'ai mal à la tête.
Bah, c'est peut-être ta faute. Hein.
Alors, d'accord, okay.
Bravo au futur maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Première interview dans Team Dugas, premier journal moyen. Bravo.
Le modèle économique du foot business, il est en train de se casser la figure. Mmh. J'ai bien vu des déclarations qui avaient été faites au moment où King Street a racheté M6, le club des Girondins, notamment par le président de Lyon, Jean-Marie Aulas.
Oui, bah vas-y, ça passe. Jean-Marie Aulas.
On l'avait relevé, on n'avait pas voulu.
Petit journal moyen.
Gentil, nous.
Bienvenue, monsieur le maire. Voilà.
Tu vois, c'est la différence entre toi et moi, entre toi et nous, parce qu'on avait tous remarqué, on avait
bien dit. Oui, c'est pour ça. Mais merci de ne pas intervenir, moi, ça me permet de faire le lendemain.
C'est aussi ce que je me suis dit.
Oui, merci Jean-Louis. Merci, sans transition. Direction à la deuxième ville de cœur de Christophe.
Voilà.
Barcelone, on est chez toi du gars là.
Oui.
J'ai regardé hier Barcelone Atlético de Madrid, match sur Bein Sport commenté par Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Tu t'entends bien avec Omar du gars?
Oui, il est gentil, Omar, canal. Il est très gentil.
Il est plutôt rigolo comme mec.
Oui, oui.
Et vous avez des points communs, un point commun sur le premier but de Diego Costa contre son camp. Je me suis cru dans Team Dugas. Je voyais Jean-Louis qui disait arrêtez, c'est trop et tout. Centre du Barça, Diego Costa ferme l'entrejambe. Et le ballon est dévié et va dans le but. Il ferme l'entrejambe. Et là, on n'est pas loin d'être dans Team Dugas avec Omar.
Ah oui, c'est
vrai. Un but assez étrange. Hein. Je ne sais pas comment on appelle ce muscle-là qui, à mon âge, il pend un peu. Non, c'est un peu. Comment on dit, c'est un peu mou. C'est pas aussi dur que Diego Costa peut l'obtenir. Pourquoi vous rigolez? C'est vrai, c'est un secteur de la jambe que ça s'est détérioré. Avec le passage du temps.
Voilà, c'est Omar Da Fonseca. Je me suis dit. J'ai fermé les yeux, j'ai dit à ma femme, mais c'est Tim Dugas là qu'on est en train d'entendre. Voilà. Bravo Omar, c'est bien. Omar, il est critiqué parfois, je comprends pas pourquoi. Il est bon, Omar Fonseca.
Ouais, parce que des fois, on comprend pas toujours ce qu'il dit, mais il le fait exprès. Donc voilà, voilà,
c'est fleuri.
Il met du gaz, ça change un peu. Ah, voilà, c'est différent. Et voilà. Joli but de Diego Costa au passage. Petite Diego Costa là, magnifique.
Le contre quoi?
Bah oui, oui. Joli ce but, c'est un joli but contre son camp.
Double contact.
Bah ouais, c'est magnifique. Sans transition, direction rapide, Faro au Portugal. Parce que l'OM est parti en stage au Portugal. Et attention, alors là, alerte, le groupe vit bien. Vous allez analyser ça, vous, spécialistes du sport et de la communication. Surtout Jérôme Bretagne qui est très actif sur Twitter, qui répond et qui dialogue avec les supporters régulièrement.
Oui, de très bons dialogues.
Jérôme, tu me régales au passage, hein, mon Jérôme. Le coach de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, lui aussi est très actif sur les réseaux sociaux. Il a publié dans l'avion, donc entre la France et le Portugal, l'avion de l'OM, un diaporama. Il s'est fait un petit plaisir. Il a pris en photo, un par un, tous les membres de son staff qui faisaient un gros dodo dans l'avion. Je crois qu'on voit même Morgan Sanson qui est crevé, endormi, et il publie un petit message, André Villas-Boas, les effets de la reprise. Et oui, ils ont repris, c'était parfois un peu dur, vous pouvez en témoigner, Jérôme, Franck et Dugas. Après deux mois de confinement,
ça pique,
ça vous est jamais arrivé d'ailleurs, vous, de jouer en activité, deux mois d'arrêt total.
Non, c'était vraiment que tu sois blessé, mais sinon non. Ouais.
Et les supporters marseillais témoignent sous cette publication sur Instagram en disant ce coach est extraordinaire, le groupe vit bien, il est chambreur, il est actif sur les réseaux sociaux, c'est gagné, c'est bon, c'est fait pour l'OM, du gars. Ce genre de communication, c'est positif, c'est bien.
Bah, c'est positif, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre ?
Non mais c'est bien. Je vois pas Rudy Garcia, si tu veux prendre un par un les joueurs de l'OL et le publier sur Instagram et les chambres. C'est deux styles différents, voilà, chacun son style.
Non mais c'est toujours bien. De toute façon, à l'OM, on sait que ça se passe bien. Il y a une vraie bonne relation. Pour preuve, l'entraîneur a prolongé alors que ça devait pas se faire. Donc oui, c'est des bons moments. Voilà, ça paraît pas être trop truqué non plus. Donc c'est plutôt un bon moment. Ouais.
On est sur l'OM, jingle l'OM, ça nous manque.
Allons droite au bout.
Il va falloir mettre des sous.
Oh non.
Quand on voit tout ce qui se passe, ce jingle, je trouve, est magnifique. Donc, je vous fais le contexte. On n'a pas arrêté d'entendre Mourad Boudjelal sur le projet de rachat de l'OM. Il est même venu dans le Super Moscato Show pendant une demi-heure, expliquer le projet, etc. Il a une rubrique sur le site qui s'appelle Rugby Rama. Il parle de rugby.
Il est bon.
De façon un peu décalée, d'accord. Il y a un projet en rugby en ce moment de rachat qui est similaire à celui de Boudjelal avec l'OM. Christophe Dominici veut racheter Béziers.
Ouais.
Il a beaucoup parlé. On l'a beaucoup entendu dans les médias.
Dans le Super Moscato.
Il est venu une demi-heure dans le Super Moscato Show. Il nous a dit on a beaucoup d'argent et voilà, il s'exprime publiquement. Étonnant, les conseils de Mourad Boudjelal dans cette chronique à Dominici qui veut racheter Béziers, sachant que Mourad, lui, veut racheter l'OM. Camoulox.
Alors moi, d'abord, je voudrais dire que je suis très choqué par ces méthodes qui consistent à déclarer qu'on veut acheter un club. Ce genre de choses, normalement, ça sort pas dans la presse. On le garde en catimini. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes, Christophe? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Si tu veux racheter le club de Béziers, tu le gardes et tu parles directement au propriétaire de Béziers. Pas la peine de s'étaler dans les médias, Christophe. Pas la peine, c'est indécent.
C'est indécent. C'était publié à minuit hier soir. Aujourd'hui, là, c'était publié pour mercredi.
C'est génial. Alors par contre, c'est génial. Mais alors, si c'est, enfin, c'est vrai. Oui, c'est
non,
vrai.
Mais c'est du second degré.
Ouais, ça fait beaucoup de gags sur Christophe Dominici.
Ça m'inquiète. Ça m'inquiète sur la santé mentale de Morad.
C'est du second degré. Il fait exprès.
D'accord.
C'est pour ça que c'est drôle.
Morad fait beaucoup de gags sur Christophe Dominici sur ce site-là.
Non, j'ai rien compris.
T'imagines, t'es pas au courant de tout ce qui s'est passé et t'es pas au courant de l'esprit de la chronique.
Ouais.
Parce que c'est beaucoup repris là aujourd'hui cette phrase.
Au début, j'étais pas au courant. Oui, t'as dû me l'expliquer. Ouais. Moi, je me suis dit, mais c'est comme du gars, il est complètement fou.
Alors, il est.
Ah ouais, voilà.
D'accord. Alors, c'est toujours qu'à la Mourad Boudjelal, on connaît bien sur RMC. Il te dit que Mourad de Toulon, sa chronique, c'est pas lui, hein, c'est Mourad de Toulon. C'est très ironique et second degré.
Bien sûr.
D'accord.
Mais en fait, quand moi je le suis depuis tout le temps, il fait passer ses messages et c'est quand même véritablement Mourad Boudjelal. Hein,
le truc, c'est que ça fait pas sérieux en fait.
Bah, t'es
en plein
Mourad.
T'es en pleine vente.
C'est le moment de faire des blagues.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais il a toujours fait des blagues, Mourad, même quand ça n'allait pas.
Tu veux racheter le club en France, le poste le plus important.
Ouais, enfin, t'es pas obligé de faire une tête d'enterrement et d'être automatiquement sérieux non plus.
T'es pas non plus obligé de mettre une plume dans le cul et un nez rouge.
Ouais. Non, mais c'est pas le cas, mais il le fait. Bah, c'est un truc qui est très suivi par les rugbymen, Mourad de Toulon. Et moi, je suis parce que j'ai un copain rugbymen qui m'en parle à chaque fois parce que Il n'arrête pas de chambrer Christophe Dominici. Ouais. Et donc voilà, mais ça fait partie de leur monde. Alors c'est vrai que si ça sort du truc, tu comprends plus, mais, ouais. Mais bon.
Dans leur monde, c'est bien.
Dans leur monde, c'est bien.
Monde merveilleux.
Et Boudjelal, il est avec le monsieur aussi, là, le Tunisien aussi,
oui.
Ils sont ensemble.
Ah, je vous dis, bien sûr.
Ouais, alors, on ne va pas en parler de l'article de ce monsieur-là qui a présenté le projet.
Si, si, on peut le faire si tu veux.
Parce que ça m'a fait un peu peur quand même ce que j'ai lu.
Ça doit te parler, un projet très méditerranéen.
Ouais, non, mais surtout, c'est un projet politique, c'est un projet communautaire.
Ah non, en fait, il dit que c'est pas politique et que c'est pas justement communautaire. C'est tout le contraire qu'il dit dans l'interview.
Ah, bon, ah d'accord.
Mais bon, okay, on pourrait y revenir. Là, on n'a pas le temps parce qu'il faut lancer la
pub. Je comprends pas le second degré et puis en plus, je dois pas savoir lire. Il est temps que j'arrête.
La géopolitique, c'est pas ton truc.
Peut-être j'ai mal compris, moi aussi. Je sais pas, on pourra le reprendre ensemble et voir ce que chacun comprend. Mais là, on n'a pas le temps. Dans l'immédiat, on pourra le faire tout à l'heure. Merci, Adrien, en tout cas.
À demain.
À demain pour le Journal Moyen. Merci, Jérôme. Bonne soirée.
Merci, Jérôme. T'as fait une belle heure, Jérôme. Appelez Jacques Pradel pour retrouver Jérôme Montaigne, s'il vous plaît.
Il était où, Jérôme?
Très belle heure, Jérôme. Bravo.
Je vous laisse la place.
Tu vas pas nous la facturer, celle-là, j'espère.
On se retrouve, Jérôme, dans l'after ce soir et demain dans Team Duga à 18h. Dans un instant, Antoine Griezmann, le Barça lui a-t-il manqué de respect, comme on dit dans le foot? À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Team Duga.